Chapitre 15. Nevea se gara derrière la voiture de location de Roman. Les lumières de la terrasse projetaient une lueur pâle sur le jardin. Nevea descendit de son pick-up et gravit les marches du perron. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle avait le maigre espoir en poussant la porte de trouver sa mère assise dans le salon, en train de l'attendre. Plus âgée, bien sûr, avec peut-être quelques reflets argentés dans les cheveux et de petits plis au coin des lèvres qui se creuseraient lorsqu'elle rirait. Leur mère avait un rire chaud et mélodieux, qui venait de la gorge et qui résonnait comme une volée de cloches. Certaines nuits, quand Nevea était particulièrement stressée, elle entendait ce rire dans ses rêves. Évidemment, sa mère ne l'attendait jamais dans le salon. Elle n'était jamais revenue à la maison, elle n'était jamais là pour consoler Nevea en la prenant dans ses bras. Au fil des ans, Nevea avait arrêté de pleurer. C'était comme si ses larmes s'étaient évaporées à la chaleur des fours crématoires. Lorsqu'elle franchit la porte, il y avait quelqu'un en compagnie de ses deux frères, même si ce quelqu'un n'était pas sa mère. « Coucou Nevea !» lui lança Dante. Assis à côté de lui à la table de la cuisine, Roman se servait un verre de bourbon. Et en face de Roman, il y avait un homme, grand, noir, avec de longues dreadlocks. Elle voyait qu'il était immense, car même assis, il dépassait Dante. « Salut Nevea, je te présente mon ami... » commença Roman. « Khalil !» compléta l'intéressé. « J'étais à la fac avec Roman. Je rendais visite à des proches du côté de Richmond, et Roman m'a proposé de passer boire un verre. Mais je vais vous laisser en famille et me commander un Uber pour rentrer à l'hôtel. » Il se leva et serra la main de Nevea. Malgré la délicatesse avec laquelle il avait pressé ses doigts, celle-ci sentit qu'il avait une poigne puissante, effrayante même. « Rom, je t'appelle demain si tu veux qu'on déjeune ensemble, » ajouta Khalil. « C'est moi qui régale. Bonne soirée à tous. J'ai été ravi de faire ta connaissance, Dante. » « Moi aussi, » répondit Dante. « Je te chasse pas, » dit Nevea. « Si vous tenez à poursuivre votre petite réunion des masculinistes anonymes, je peux monter dans ma chambre. » « Rassure-toi, la réunion était terminée, » s'esclaffa Khalil. « Rom, je t'appelle demain. Allez, au revoir tout le monde. » Et il sortit dans la nuit. « Tu as réussi à faire renouveler la licence, au fait ?» demanda Roman, une fois Khalil parti. « Ouais, $700 pour que l'État puisse nous dire que nos sols ne sont pas assez propres. Mais sinon, il est en ville pour combien de temps, ton copain ? T'as peut-être oublié, mais je me défends en cuisine. Je pourrais nous faire à dîner un de ces soirs. » Roman esquissa un sourire. « J'avais surtout oublié que tu avais un faible pour les dreadlocks. » « C'est forcément ça parce que ça fait 4 jours que je suis rentré et c'est la première fois que tu proposes de te mettre au fourneau. » Nevea lui donna une tape sur le bras avant de faire mine de le gifler, et Roman éclata de rire, aussitôt imité par Dante. Bientôt, ils s'esclaffaient tous les trois. Pendant quelques instants, Nevea eut l'impression qu'ils étaient revenus plusieurs années en arrière. C'est alors qu'elle se rappela ce qui s'était passé lorsqu'ils étaient enfants. Ce qui leur avait été arraché, par un destin et des circonstances hors de leur contrôle. Elle repensa à ce funeste samedi de juin, où leur cœur avait explosé en 1000 morceaux. Le rire s'éteignit si rapidement dans sa gorge qu'on aurait dit une porte qui s'était refermée brutalement. « Tu t'es occupé du macabé que devait te livrer Walden ? » demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Oui, les cendres sont empaquetées et rangées, » répondit Roman. «
Très bien. Bon. » « Je vais me coucher, je suis crevé. À demain. »«
On devrait rendre visite à papa demain matin, » suggéra Roman. « Tous les trois. »«
On verra. »«
Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Tous les corps qu'on devait incinérer l'ont été. Pour les autres, on peut rien faire tant qu'on n'aura pas obtenu l'autorisation du légiste. Du coup, on n'a rien de prévu. On devrait y aller, non ?»«
On verra, je t'ai dit. Mais n'hésite pas à emmener Dante. Il n'a toujours pas rendu visite à papa. » Depuis que les flics nous ont appelés pour nous annoncer qu'ils l'avaient retrouvé sur le bord de la voie ferrée. « Pourquoi tu t'énerves ?» s'étonna Roman. « Tout ce que j'ai dit, c'est qu'on devrait aller voir papa. Je crois que ça lui fait du bien. »
« Je ne m'énerve pas, Roman. Mais tu peux pas pointer ton nez ici une fois tous les 5 ans et te mettre à donner des ordres. T'es peut-être l'aîné, mais t'es pas mon père. T'es pas le patriarche.
Et on n'est pas dans une des pièces de théâtre que maman regardait en DVD, avec le grand frère qui débarque pour régler tous les problèmes et où ça se termine dans la joie et la bonne humeur autour d'un barbecue. Si t'es ici, c'est uniquement parce que papa est dans le coma. Quand il sera mort ou qu'il se réveillera et que quelqu'un devra s'occuper de le laver, de le nourrir et de faire des allers-retours jusqu'au centre de rééducation, tu seras reparti à Atlanta. Dante sera défoncé et ce sera encore moi qui devrai me charger de tout.
Nev, commença Roman, mais sa sœur était déjà dans l'escalier.
Fiche-lui la paix, dit Dante. Elle en fait beaucoup. C'est grâce à elle que la maison tient debout. Encore le mois dernier, papa a oublié de faire le virement pour le crédit et elle a dû aller poireauter à la banque le jour de son anniversaire. Elle est pas fâchée contre toi, t'inquiète, mais faut la laisser souffler.
T'as raison. On n'est pas des bons frangins. Par contre, on va tout faire pour qu'elle ne soit jamais affectée par nos histoires avec les Black Baron Boys. Je suis sérieux, Dante. Elle a pas besoin de ça. Roman se dirigea vers l'escalier.
Je t'ai dit de lui foutre la paix, insista Dante.
Roman se retourna un instant vers son frère, puis il gravit les marches.
Personne m'écoute jamais, de toute façon,
maugréa Dante en sortant un flacon de médicaments de sa poche. Son pansement se mit à suinter lorsqu'il dévissa le couvercle et il goba deux cachets d'oxycodone. Roman s'approcha de la chambre de Nevea et, comme la porte était ouverte, il tapota sur le chambranle.
« Je veux pas me disputer avec toi, Rome, »
soupira Nevea, allongée sur le ventre en travers du lit. À la lueur de la lampe de chevet, des ombres étranges se découpaient sur le mur opposé, où les posters de Ja Rule et Usher avaient été remplacés par une carte de l'Afrique autour de laquelle étaient accrochées des photos encadrées de lions, de guépards et de gazelles. Ronronnant juste à côté de la lampe, un petit projecteur affichait un ciel étoilé au plafond, avec au centre une espèce de trou noir dans les tons rouges et noirs.
« Où est-ce que t'as trouvé ces photos ?» demanda Roman.
Je les ai achetées à une brocante à un type qui les a prises lors d'un voyage au Kenya. Il m'a avoué que ça avait été le plus beau moment de sa vie, de pouvoir les observer comme ça dans leur milieu naturel.
Je veux bien le croire. Ça doit faire réfléchir de voir en liberté quelque chose qu'on a toujours vu dans une cage. Il se demanda si sa sœur avait conscience que c'était d'elle qu'il parlait. Il ne l'avait jamais vue libre. Roman tentait de réparer les erreurs de Dante, mais c'était Nevea qui était le véritable pilier de la famille. Et elle avait raison, il essayait de remplacer leur père, même s'il ne lui arrivait pas à la cheville. Mais pouvait-elle lui jeter la pierre, elle qui avait depuis si longtemps endossé le costume de mère? Hélas, cette armure qu'elle portait pour masquer ses souffrances pesait lourd, et l'entraînait chaque jour un peu plus vers l'abîme. À quoi ressemblerait-elle si elle était libre? Ses yeux s'illumineraient-ils de la même étincelle que ceux du lion ou du guépard? Les rides de son visage s'effaceraient-elles sous la douce lueur de la sérénité? Depuis que leur mère avait disparu, ils vivaient tous enfermés dans une sorte de prison. Mais Nevea était celle qui méritait le plus de goûter à un semblant d'évasion.
« T'as déjà pensé à y aller ?» demanda Roman.
« Où ça ?»«
En Afrique, au Kenya. »
Et qui s'occuperait de la boutique en mon absence? Dante? Toi?
Certainement pas papa, en tout cas.
Eh ben, moi, alors? Regarde, je suis là.
Quand on y verra plus clair pour papa, je pourrai revenir quelques semaines pour te permettre de partir en vacances loin de Jefferson la ruine.
Nevea se redressa sur un coude.
Qu'est-ce qui va pas?
Demanda-t-elle.
Pourquoi ça n'irait pas? Écoute, tu n'es...
T'as raison, je suis pas papa. Mais t'es pas maman non plus. Et t'as pas à l'être. Papa, Dante et moi, on a merdé. On t'a laissé prendre la place de maman alors que tu aurais dû rester Nevea. Papa bossait tout le temps et on a dû apprendre à se débrouiller seul. Mais toi, tu... Bref, c'est pas bien ce qu'on a fait. Donc si jamais un jour t'as besoin d'un peu d'air, je reviendrai et je ferai en sorte que les factures soient payées. C'est ma spécialité, après tout.
Tu le penses vraiment, hein?
Il s'apprêtait à répondre quand la sonnerie du téléphone de Nevea retentit. Elle attrapa l'appareil sur la table de chevet, le mit sur silencieux après avoir regardé l'écran et le reposa. Ton ami est passé à la boutique aujourd'hui, dit Roman.
C'est juste une connaissance, qui se trouve être aussi un policier.
Roman s'appuya au chambranle de la porte et croisa les bras.
Écoute, fit-il d'une voix plus grave. Je veux pas me mêler de tes affaires. Mais ce mec est un connard. T'es ma sœur et tu mérites beaucoup mieux que lui.
Il n'évoqua pas l'alliance qu'il avait vue au doigt de Chauncey. Il n'évoqua pas le sourire sournois du policier lorsqu'il s'était présenté comme un ami de Nevea. Il n'évoqua pas le fait que Chauncey lui rappelait le garçon qui harcelait Nevea quand ils étaient enfants. Il n'eut pas besoin de le faire. Il savait qu'elle pouvait le lire sur son visage.
« Je suis au courant que c'est un connard, » répondit Nevea. « Et je veux pas me mêler de tes affaires non plus, mais c'est qui, au juste, ce Khalil ? Jusqu'à ce soir, j'avais jamais entendu parler de lui. Il a dit que vous étiez à la fac ensemble, mais il n'était pas là à ta remise de diplôme. Ça m'aurait marqué.
Il a laissé tomber ses études pour intégrer l'armée. Il a été ranger pendant quelques années. Maintenant, je crois qu'il bosse dans la sécurité privée.
Quelques années plus tôt, sur les conseils d'une ex-petite amie qui pensait que cela pourrait l'aider à développer ses compétences de vente, Roman avait lu « Arrête-moi si tu peux », le best-seller du célèbre escroc Frank Abagnale. Il en avait surtout retenu que, pour qu'un mensonge soit crédible, il fallait toujours le parsemer d'un peu de vérité. Khalil avait laissé tomber ses études, il avait intégré l'armée, il avait été ranger. Et il travaillait dans la sécurité privée. Tout cela était vrai. Mais Khalil faisait également disparaître des gens. Il avait tué au moins 4 personnes, même si chaque fois on avait poussé la police à conclure qu'il avait agi en état de légitime défense. Roman le pensait capable de tuer quelqu'un à main nue. Khalil était son ami, mais il était aussi dangereux que les fauves encadrées au mur. Un jaguar. Cela aussi, c'était vrai.
D'accord, mais... commença Nevea, avant d'être à nouveau interrompu par la sonnerie de son téléphone.
Je te laisse répondre, dit Roman. Mais j'étais sérieux, hein? Si tu prends pas de vacances, tu le regretteras. Mark Twain a dit que voyager était fatal aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit.
Ouais, mais Mark Twain n'a jamais rencontré une tête de mule de Jefferson Run.
Roman s'éloigna et Nevea décrocha.
Allô?
Si je t'appelle, tu sais ce que ça signifie,
dit Chauncey.
Je suis libre.
Qu'est-ce que t'as raconté à mon frère aujourd'hui?
Roman? Il se rend pas compte du merdier dans lequel il s'est mis. Un des potes de ton autre frangin était un de nos informateurs, qui fréquentait à la fois les Black Baron Boys et le Ghost and Crow. À ta place, je ferai tout pour convaincre Dante de venir nous parler. D'après la rumeur, les Black Baron Boys auraient des liens avec Shade Sinclair. Quant au Ghost Town Crew, c'est une filiale de la MS-13. Bref, que des gens qui ne lèveraient pas un sourcil à l'idée de refroidir tes frangins. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Sharon est partie pour le reste de la semaine, et elle a emmené les garçons. Tu peux venir à la maison ?
Nevea songea qu'il fallait être une sacrée ordure pour évoquer avec une telle insouciance le meurtre de ses frères par un criminel notoire ou un gang sanguinaire de Los Angeles, juste avant de lui proposer une partie de jambes en l'air. Maintenant qu'elle savait pour le copain de Dante, elle comprenait que ce qui était arrivé quelques jours plus tôt à ses frères était beaucoup plus grave que ce qu'elle avait cru. Hélas, ce n'était pas une surprise. Dante vivait en permanence dans un état de semi-ébriété quand il n'était pas en plus sous l'emprise d'une drogue ou d'une autre. L'idée qu'il soit devenu ami avec un dealer était donc assez logique. Pour autant, ça ne voulait pas dire que Nevea n'était pas terrifiée. Car elle aimait ses frères. Même si la plupart du temps, il ne l'aidait pas du tout. Elle les aimait d'un amour désespéré, aveugle, presque fanatique. Elle aimait aussi son père, évidemment, mais ce n'était pas pareil. La femme de son père avait disparu. Eux avaient perdu leur mère. Dans sa tête, il existait 2 visions de cette même tragédie séparées par un gouffre. Avec leur père d'un côté... et Roman, Dante et elle de l'autre. Nevea se tenait avec ses frères au bord du précipice obscur, aux confins d'un pays étrange appelé l'inconnu. Au fil des années, elle s'était convaincue que le pays où habitait son père était celui des secrets. Entre les deux, quelque part au fond du gouffre, se trouvait la vérité. Nevea s'occupait de son père. Elle s'assurait que les factures étaient payées. Elle l'aidait à faire tourner la boutique, mais plus le temps passait, plus elle se sentait distante. Tous les ans, le jour de l'anniversaire de sa mère, leur père s'installait sur la terrasse et buvait jusqu'à avoir les yeux humides. Il se mettait alors à lui raconter à quel point il aimait leur mère, à quel point elle lui manquait. « Elle était ma beauté, la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Sans ta mère, on n'aurait pas le crématorium. La banque ne m'aurait pas accordé le prêt. Ce qu'on a aujourd'hui, elle m'a aidé à le bâtir brique par brique. Oui, elle a fait des erreurs, mais moi aussi. Je donnerais tout pour la revoir. Je brûlerais la terre entière juste pour pouvoir entendre encore une fois le son de sa voix. » Après ça, Nevea devait l'aider à monter se coucher. Tous les ans, son père récitait le même monologue, et tous les ans, elle y croyait un peu moins. La dernière fois, elle avait dû se mordre la langue pour ne pas le traiter de menteur. Ses frères étaient tout ce qu'elle avait, pas son père. Là-dessus, elle refusait de se voiler la face plus longtemps. Pas le crématorium dont elle n'avait strictement rien à foutre, à part qu'il permettait de payer les factures. Et pas sa mère non plus, ce fantôme silencieux qui ne se manifestait que dans ses rêves. Alors même si Roman et Dante ne voulaient pas qu'elle s'implique, elle trouverait un moyen de les sortir du guépier dans lequel ils s'étaient fourrés. C'était sa spécialité. Les cartes que la vie lui avait distribuées. Venir en aide aux autres, à défaut de prendre soin d'elle-même. « Je serai là dans une heure », répondit-elle, parce qu'elle savait déjà que l'Afrique n'était pas pour elle.